Marie-David, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes ensemble pour parler du livre que vous avez écrit avec Cédric Sauvia, Intelligence artificielle, la nouvelle barbarie, qui est paru aux éditions du Rocher. Alors, je précise que Cédric Sauvia, votre co-auteur, est comme vous, ingénieur polytechnicien, comme vous, polytechnicienne, mais aussi président de l'Association française contre l'intelligence artificielle, dont vous faites également partie. Alors, vous avez ensemble écrit un livre qu'on peut dire à charge, hein, un livre qui est fait pour nous faire réfléchir. Et avant que vous nous expliquiez pourquoi, est-ce que vous pourriez nous donner une tentative de définition de l'intelligence artificielle, Marie-David?
Alors, c'est assez difficile de définir l'intelligence artificielle. Les chercheurs du domaine eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Néanmoins, on peut revenir à la définition historique de l'intelligence artificielle. Donc, en 1955, au congrès de Dartmouth, plusieurs scientifiques de différentes disciplines se sont réunis, des informaticiens, des mathématiciens, des économistes, et on écrit une sorte d'acte de naissance de la discipline, qui était de dire, on va chercher, via les ordinateurs, via les algorithmes, à répliquer le fonctionnement d'une intelligence humaine. Alors, répliquer le fonctionnement d'une intelligence humaine, en fait, ils se sont rendus compte que c'était extrêmement ambitieux parce qu'en fait, on ne comprend pas aujourd'hui comment fonctionne l'intelligence humaine, on n'arrive pas à en toucher les limites. Du coup, ils ont réduit le problème, comme les scientifiques aiment bien le faire, ils aiment bien casser les choses en petits morceaux et résoudre chacun des petits morceaux. Donc, ils ont considéré que l'intelligence humaine était la somme d'une série de sous-fonctionnalités, par exemple, être capable de voir des objets, être capable de se déplacer dans une pièce, être capable de parler, être capable de prendre une décision rationnelle. Ils ont essayé ensuite de résoudre chacun de ces sous-problèmes via des algorithmes.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant d'intelligence artificielle qu'il y a d'applications, non?
Alors aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est très loin du fantasme d'une intelligence artificielle qui dans le milieu se dit forte, qui serait justement équivalente ou supérieure à l'intelligence humaine et qui pourrait tout faire. Aujourd'hui, tout ce qui existe, ce sont une série d'intelligences artificielles très spécialisées qui ont été programmées pour une tâche précise. Vous avez des IA pour lire des radios, vous avez des IA pour accorder des prêts bancaires, vous avez des IA justement comme les robots de Boston Robotics pour faire un saut périlleux à un robot. Mais en fait, à chaque fois, une IA qui a été entraînée sur une tâche donnée ne sait faire que cette tâche. Si vous avez développer une IA pour traduire du français du chinois, elle comprendra rien à un texte russe. En cela, voilà, on n'a pas du tout de modèle général de l'intelligence qui, comme on sait, est capable de passer d'une chose à l'autre et d'avoir une vision globale et de faire différentes choses.
Déjà dans les années 60, en fait, il y avait deux types d'intelligence artificielle, hein, si je vous ai bien lu, l'intelligence artificielle connectiviste et l'intelligence artificielle symbolique. Donc l'une qui tente justement de modéliser le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire le physique en fait, hein, on essaye de le faire, voilà, de la construire physiquement, et l'autre qui est au contraire la modélisation d'un processus d'apprentissage, donc d'imiter le fonctionnement. Est-ce qu'on est toujours dans ces deux catégories ou bien ça s'est aussi complètement diversifié, Marie-David?
Alors, l'intelligence artificielle symbolique, c'était une vision très abstraite de l'intelligence où effectivement on essayait de créer une théorie de la pensée, des modèles de pensée, et ensuite de la coder sous forme d'algorithme. Cette branche de l'IA est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle ne reprendra pas un jour, mais elle n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que justement, essayer de décrire le fonctionnement d'un processus de pensée, la façon dont on prenait une décision rationnelle, ou même la façon dont on reconnaît un objet, on avait beau additionner les règles, on trouvait toujours des cas qui ne s'étaient jamais présentés avant, et la machine n'y arrivait pas. Ça, c'est l'IA symbolique. L'IA connectiviste est partie en effet de l'intuition qu'il fallait sans doute s'intéresser aux neurones et se fondre sur une modélisation abstraite du réseau de neurones. Donc, c'est la branche qui est très en vogue aujourd'hui, qui s'appelle le deep learning. Dont on parle beaucoup dans les journaux parce qu'elle marche très bien. En fait, même si on s'inspire du neurone, c'est là où c'est compliqué, une fois de plus, en fait, on ne sait pas du tout comment fonctionne le cerveau, on en est très très loin. Donc tout ce qu'on modélise, c'est simplement des neurones branchés entre eux. Donc on est très loin, hein, de la représentation d'un cerveau humain. En revanche, ces neurones abstraits branchés entre eux ont une capacité très intéressante, ils peuvent apprendre. Ils peuvent apprendre à reconnaître des motifs dans un ensemble de données. Donc voilà, cette branche de l'IA, qui est la branche du deep learning, est très efficace aujourd'hui et a beaucoup d'applications.
En fait, c'est l'explosion des données, du nombre de données et la possibilité de les utiliser qui a fait avancer vraiment la recherche sur l'intelligence artificielle, Marie-David.
Oui, oui, tout à fait. On voit d'ailleurs que l'intelligence artificielle est un domaine entièrement en déshérence dans les années 80 et 90, parce que à cause des échecs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais effectivement, comme vous le dites, c'est bien Internet et le smartphone et l'explosion des volumes de données. Et en parallèle, le fait que les coûts de calcul ont beaucoup diminué et qu'il y a des processeurs qui calculent très vite pour pas très cher, qui a effectivement permis de relancer l'IA connectiviste, l'IA réseau de neurones, qui avait été conçu dans les années 60, mais à l'époque, il y avait très peu de données disponibles, les ordinateurs n'étaient pas très puissants, donc les résultats étaient très grossiers.
Est-ce que, alors là on va aborder peut-être un sujet dont on n'avait pas parlé, mais est-ce qu'une intelligence artificielle a déjà passé ce fameux test de Turing qui consiste en une conversation entre une machine et un humain sans que l'humain se rende compte qu'il converse avec une machine ?
Alors non, même si régulièrement des gens annoncent qu'ils l'ont passé, à ce jour, non, le test de Turing n'a toujours pas été passé.
C'est que pour l'instant, on ne peut pas prendre une machine pour un humain. C'est un fait.
Si vous parlez avec elle pendant pas très longtemps, par exemple si vous discutez avec Duplex, l'assistant de Google qui permet de prendre des rendez-vous, pendant 3 minutes, vous ne verrez pas la différence. Mais si vous essayez d'avoir une vraie conversation avec Duplex et de parler d'autres sujets que ce pour quoi il est programmé, à savoir voilà, prendre un rendez-vous, bah, oui, vous vous rendrez compte que c'est une machine, hein, ce n'est pas un humain.
Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, des endroits où fonctionne l'intelligence artificielle dans notre quotidien, Marie-David ?
Alors, l'endroit où fonctionne l'intelligence artificielle, c'est bien entendu dans tout ce... dans Internet et nos smartphones en particulier, dans tous les réseaux sociaux, Google, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez sur votre page Facebook, sur votre fil Instagram, tout ce qui est mis en avant ne survient pas par magie, mais est choisi par des algorithmes, parce qu'ils ont collecté des données sur vous, et donc ils vont vous présenter ce qui est susceptible de vous faire rester le plus longtemps sur le site et de vous faire cliquer sur des pubs. Donc j'ai envie de dire que l'utilisation majeure en quantité et en volume économique, c'est vraiment la publicité en ligne, hein, qui est le moteur de Facebook et de Google. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup, grâce au progrès du deep learning, d'applications de l'IA dans des domaines, mais aujourd'hui, on va dire que ce sont des applications un peu embryonnaires. Donc, par exemple, en médecine, hein, on commence à avoir des IA qui sont capables de lire des radios, de poser des diagnostics. On va utiliser des... Alors, on utilise beaucoup d'IA dans l'industrie financière parce que l'IA va aider à prendre des décisions, à analyser si un dossier de crédit est bon ou mauvais. On a aussi de l'IA dans, alors quelque chose qui ne marche pas encore très bien, dans le développement des véhicules autonomes. L'IA va être capable de faire conduire un véhicule. Mais j'ai envie de dire que si on veut avoir les grandes, grandes masses, le gros domaine d'application, ça reste la pub en ligne. Et c'est là où nous, on s'insurge un peu contre cette hypocrisie de Google et Facebook qui nous disent bah, l'IA, ça va guérir le cancer, ça va régler le réchauffement climatique. Non, c'est aujourd'hui, ils l'utilisent de façon extrêmement lucrative pour maintenir les utilisateurs sur leur site.
Toutes ces intelligences artificielles qui ont l'air très diverses ont quand même un point commun, Marie-David.
Oui, le point commun, c'est que les modèles d'IA qui sont utilisés aujourd'hui sont utilisés pour faire de la prédiction. Alors, ça va se manifester de façon très différente. Par exemple, dans le domaine de la reconnaissance d'image, l'algorithme va prédire que cette image a 98% de chances d'être un chat plutôt qu'un chien. Et donc, on va dire, c'est un chat. Dans le domaine, justement, on parlait de la médecine, l'IA va dire, cette radio, je pense qu'il y a X% de chances que ce soit un cancer. Et dans le cas de Facebook et Google, ils vont prédire quelle est l'actualité, qui vont vous pousser sur votre fil, qui a le plus de chances de vous plaire. Donc, effectivement, on ne voit pas forcément ce point commun quand on voit les applications qui sont très différentes, parce que c'est une technologie très plastique, mais le point commun, c'est que ce sont des modèles prédictifs entraînés sur des données qui sont disponibles en abondance.
Alors Marie-David, avec Cédric Sauvia, vous avez bien découpé en fait les conséquences potentielles de l'utilisation de ces intelligences artificielles sur la société, sur nos modes de vie. Mais si vous deviez en choisir d'exposer les conséquences principales, qu'est-ce qui vous semble le plus important dont utilisateurs, devons être conscients ?
Alors effectivement, il y en a beaucoup, hein, donc je vais me concentrer sur une. Celle qui nous préoccupe beaucoup, c'est une sorte de dépossession qu'on aurait de nos facultés. Alors je m'explique, aujourd'hui, l'IA est utilisée pour justement des aides à la décision dans des domaines experts qui étaient autrefois le fait de gens formés dans un domaine pendant 10 ou 20 ans, et par exemple la médecine. Et l'IA va arriver, va donner un verdict, Et ça va être extrêmement difficile pour l'homme de contredire ce verdict. D'abord parce qu'il va se sentir toujours un petit peu inférieur à la machine. Donc nous, on aime bien l'expression de Günther Anders, la honte prométhéenne, c'est le fait qu'on se sente toujours inférieur à nos machines parce qu'elles sont infaillibles, elles se trompent pas, elles calculent sans faire de fautes, elles sont pas de mauvaise humeur. Et du coup, le fait de se sentir inférieur, ça veut dire qu'on pourra pas remettre en question la décision de la machine et peu à peu, notre propre capacité va s'éroder. Si vous, par exemple, prenons le cas de la voiture autonome, si on nous dit aujourd'hui, la voiture autonome, bien sûr, le conducteur, en fait, il va pas conduire 80% du temps, mais il sera là pour freiner quand même quand ce sera important. Moi, je suis pas d'accord. La conduite, c'est un état qui nécessite une vigilance et une attention de tous les instants. Et pour bien conduire, il faut conduire souvent aussi. Si vous êtes dans votre voiture et que vous écoutez un podcast ou que vous êtes sur votre smartphone, en fait, vous perdrez vos réflexes de conducteur. Et en fait, non, vous ne saurez pas freiner au bon moment. Donc, le fait que l'IA s'immisce dans des tas de domaines de nos vies où on exerce justement jusque-là notre expertise, notre savoir-faire va en fait nous déposséder et éroder nos conséquences. Et ça a énormément de conséquences dans le monde du travail, dans la façon dont la société va penser le travail, et même dans nous, on pense que ça a des conséquences aussi dans la façon dont la société va régler ses conflits. On pense qu'on va être dans des sociétés où on n'aura plus confiance en nous pour régler nos conflits, et du coup, on s'en remettra à une espèce de tierce partie neutre qui sera l'IA, qui donnera une sorte d'oracle. Mais du coup, quelle justice peut exister dans une telle société? Donc pour nous, c'est la conséquence la plus criante.
Marie-David, justement, là, vous parliez d'automobile. On se souvient en 2018 d'un accident mortel causé par une voiture autonome de Uber. L'entreprise Uber a été relaxée de la culpabilité, en fait, devant les tribunaux. Mais ça pose une vraie question. Qui est responsable de cet accident où il y a quand même eu un mort?
Alors, c'est une excellente question. Alors, nous, on a une position assez radicale sur ce sujet. On pense que les algorithmes ne devraient pas avoir de responsabilité. En fait, surtout, on pense que les algorithmes ne devraient pas pouvoir prendre de décisions qui ont des impacts sur la vie ou la mort de gens. Qu'un algorithme ait un impact sur une décision mineure comme celle, quelle pub vous voyez sur Google, c'est pas très grave. Ça va pas changer votre vie. En revanche, ce n'est pas sain qu'un algorithme puisse prendre une décision qui impacte la vie ou la mort d'une personne pour des tas de raisons, parce que par exemple l'algorithme n'est pas capable de se justifier ou d'expliquer sa décision, donc ensuite ça rompt toute l'idée qu'on a du système judiciaire, on va avoir deux parties qui vont s'opposer l'une à l'autre, et à la fin la justice va trancher au milieu, donc on ne peut plus avoir de justice, et donc si on ne peut plus avoir de justice dans les cas de vie ou de mort, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite par le fait qu'aujourd'hui, effectivement, les algorithmes sont codés d'une façon un peu agnostique, c'est-à-dire que personne ne fait des choix. Donc la voiture autonome, par exemple, on dit faut qu'elle évite les accidents, mais du coup le résultat de sa décision va être un petit peu une forme de hasard, parce qu'en fait les systèmes sont tellement complexes que personne ne les contrôle vraiment. Et donc, est-ce que vous avez envie d'avoir une voiture qui peut tuer un enfant ou son covoiturier, sachant que ça résulte d'un calcul dont vous ne maîtrisez rien et que vous ne pouvez pas comprendre? Donc moi, ma position, c'est qu'en fait on ne devrait pas rentrer dans ce débat, il ne devrait pas y avoir d'armes autonomes ni de voitures autonomes, et qu'on devrait regarder les domaines où l'IA est utilisée au cas par cas, et quand elle a des conséquences trop graves, choisir de ne pas l'utiliser.
Alors comment vous voyez l'avenir du monde là, si on se base sur aujourd'hui? Elle est déjà présente, l'intelligence artificielle. Comment vous envisagez l'avenir, Marie-David?
Alors moi, si je suis complètement honnête avec vous, je trouve que les problèmes posés par le réchauffement climatique et la transition énergétique sont beaucoup plus criants et urgents, et donc nos sociétés feraient mieux de s'en occuper vraiment en premier, parce que je pense que c'est quelque chose qui va menacer directement nos conditions de vie, si ce n'est dans cette génération, dans la génération suivante. Après, je pense que de manière générale sur la technologie, ma position, c'est qu'il faut qu'il y ait un débat. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre sur un axe volontairement critique. J'espère bien que les gens le liront et ne seront pas d'accord avec nous. Parce que ce qu'on veut, c'est justement susciter la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réflexion sur l'utilisation, l'arrivée de la technologie dans nos vies et dans beaucoup de domaines. Par exemple, le réchauffement climatique, c'est bien la conséquence d'une décision technologique qui a été prise au XXe siècle, et de dire, on va faire une société fondée sur les énergies fossiles et la voiture, et puis on verra bien. Et on en subit les conséquences 70 ans après, et on voit bien que c'est quand même plus compliqué que ça. Et sur l'IA, c'est pareil. Ce qu'on veut, c'est que les gens réfléchissent et que les gens ne considèrent pas qu'en fait c'est comme un phénomène naturel qui tomberait du ciel. Les technologies, elles relèvent toujours d'un système économico-politique. Il y a toujours des acteurs derrière qui ont des intérêts à les développer, qui gagnent de l'argent en les utilisant. Donc c'est pas complètement désincarné et ça tombe pas du ciel. On a le droit, dans une démocratie, de dire on veut réfléchir à ça, on veut mettre des limites, on n'est pas d'accord avec ça, il y a des lois qui existent. Donc nous, on veut susciter ce débat et cette réflexion.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.